Alors, simplement, quand on pense évangélisation, on pense souvent à nos amis musulmans, on pense souvent à nos amis athées. Voilà, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Hicham, qui est un ancien musulman, qui est fils d'imam, qui travaille beaucoup dans l'évangélisation parmi les musulmans. On pense à beaucoup ce genre de personnes-là qu'on rencontre souvent. Et on ne connaît pas toujours ce que pensent nos amis catholiques, on ne sait pas toujours ce qu'ils pensent, et on ne sait pas vraiment comment échanger avec un catholique. D'accord ? Est-ce qu'il faut lui rentrer complètement dedans en disant « mais tu crois du grand n'importe quoi ?» Ou est-ce qu'au contraire, il faut dire « ah mais non, en fait, on croit quasiment à la même chose, c'est pas très très différent. Que penser ? Que faire ? Mais où est donc Cornicard ?» Alors, ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, on a à cœur ce verset, qui est un verset assez dur, où le Seigneur dit à des gens qui ont prétendu le connaître, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » C'est dur. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que, finalement, les personnes qui sont autour de nous et qui prétendent connaître l'Évangile, qu'elles soient catholiques ou pas, hein, ça peut être des personnes de notre Église, eh bien, vraiment, en ayant à cœur ce verset, on puisse vraiment leur annoncer pleinement l'Évangile et éviter cette situation qui me semble horrible, où le Seigneur, il tourne vers quelqu'un et lui dit « Écoute, je ne t'ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Vraiment qu'on ait ce verset en tête, il y a une urgence, il y a beaucoup de gens autour de nous, même parfois dans notre église, qui prétendent connaître l'évangile et peut-être pas vraiment personnellement en fait. Alors on va faire trois petites choses aujourd'hui selon les temps. Si quelqu'un veut bien surveiller aussi l'heure, si jamais je dépasse, il me fera des signes fesses. Ça je comprends bien, ou alors ça marche très bien aussi, ou alors Timothée tais-toi, il y en a plein qui marchent très bien. Dans un premier temps qu'on parle de quelques dogmes, alors vraiment j'ai survolé. Généralement, je voulais aller à l'essentiel. Qu'est-ce qu'il croit ? Pourquoi ? Dans un deuxième temps, qu'est-ce que nous, on peut faire concrètement, simplement pour annoncer l'Évangile, pour témoigner ? Et troisièmement, qu'on puisse peut-être éventuellement prendre un peu de temps pour échanger. Alors, à tout moment, n'hésitez pas à m'interrompre. D'accord ? N'ayez pas peur. J'ai pas l'air comme ça, mais je suis pas très très méchant. Enfin, ça dépend des jours, mais là, ça va. Et n'hésitez absolument pas à m'interrompre, si besoin... et me dire, ah mais attends, là j'ai une remarque vraiment brûlante, ne la gardez pas pour le temps numéro 3, parce que si vous êtes comme moi, vous l'avez oublié d'ici là. Donc n'hésitez absolument pas à m'interrompre, il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a pas de mauvaise remarque, et puis si jamais, bah, on échangera sur ça. Ok ? Alors, pourquoi ce petit 1, les dogmes catholiques à la lumière des Écritures ? Que pensent les catholiques ? Moi, j'ai grandi dans un milieu chrétien, et donc on avait vraiment en tête, ah les catholiques c'est vraiment pas bien, ils croient du grand n'importe quoi. Oh, t'imagines, ils prient Marie, ils prient les saints, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et à l'inverse, j'ai parfois vu des églises qui étaient dans l'extrême inverse et qui disaient « Mais non, mais c'est nos frères en Christ, faut échanger avec eux, il faut lire la Bible avec eux, etc. » Que penser ? Et bien, j'aimerais qu'on voit quelques petites choses. Et finalement, sur quoi est-ce que je me suis fondé pour vous présenter ce que je vous présente aujourd'hui ? Eh bien, j'ai pas lu Vatican II, parce que c'est en latin et que c'est illisible, mais il y a un bouquin qui est pas mal, qui s'appelle « Comprendre le catholicisme romain ». Qui a été traduit en français gratuitement sur le site de Florent Varac. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Florent Varac, qui est pasteur dans la région lyonnaise. Et sur son site, voilà, il y a une traduction complète du bouquin, c'est plus de 100 pages, c'est très très bien. Et ce bouquin, c'est une réponse au livre du catéchisme de Jean-Paul II. Et toutes les références que vous allez voir un peu partout, c'est des références au livre de Jean-Paul II, sur le catéchisme de Jean-Paul II. Ok ? C'est clair ? Tout le monde y a compris ? On est bon ? Super. Alors déjà, première question qu'on peut se poser, c'est la question de l'autorité. Pour un catholique, entre guillemets, c'est quoi l'autorité ? Qui a l'autorité ? Eh bien, bien sûr, il y a les Écritures, la Bible, la parole de Dieu. Il y a la tradition, d'accord ? Ce qui se fait dans l'Église notamment. Et le magistère de l'Église, c'est-à-dire finalement les responsables. On pense notamment au pape, au Vatican, etc. Et ces trois choses-là sont les autorités dans l'Église catholique. Que se passe-t-il quand il y a éventuellement une contradiction ? Quand on a l'impression que l'autorité, le magistère catholique ne va pas tout à fait dans le même sens que la Bible, ou quand on a l'impression qu'il y a une contradiction. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien ça, c'est assez intéressant. La charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église, dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire aux évêques, en communion avec le successeur de Pierre, l'évêque de Rome, c'est-à-dire le pape. On va traduire. Alors déjà, juste article 85, c'est parce que dans le livre de Jean-Paul II, c'était en l'article 85. En français, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais il y a, peut-être on a l'impression qu'il y a un truc qui se contredit, ça marche pas, eh bien c'est que tu sais pas interpréter. Et d'où vient l'interprétation ? Eh bien c'est l'Église catholique, le magistère, l'autorité catholique, le Vatican, qui peut dire ça, c'est la bonne interprétation, qui peut trancher. C'est ce que ça veut dire en termes un peu grossiers. Ok ? Donc en gros, dès le début, il y a peut-être un problème d'autorité. Nous, quand on réfléchit, on a ce qu'on croit, ce qu'on pense, etc. Mais si jamais on prouve que j'ai tort avec la parole de Dieu, je dirais, bah, écoute, t'as raison, j'ai tort, la preuve, la parole de Dieu me montre que j'ai tort. Eux, là où c'est plus délicat, c'est quand bien même on peut les remettre en question sur plein de points avec la Bible à l'appui, bah, la Bible n'est pas la seule autorité. Et ils ont grandi souvent dans un système où depuis qu'ils sont petits, on leur dit, quand tu sais pas, c'est l'Église qui a raison. Au final, c'est ça que ça veut dire. Exactement. Quand tu sais pas, bah, l'Église, elle a raison, elle. La tradition catholique, elle a raison. Donc parfois, c'est compliqué parce que on cite la Bible, on cite la Bible, on cite la Bible, mais ça ne les convainc pas plus que ça. Et ce qui va vraiment les convaincre, il n'y a rien d'autre que le travail du Saint-Esprit dans le cœur, et donc le long temps. Ça va prendre du temps. Moi, ça m'est déjà arrivé de mener avec l'aide de Dieu des catholiques à la conversion. C'est sur une période où la parole de Dieu travaille dans les cœurs et ils se rendent compte qu'il y a un truc qui ne colle pas dans ce que je fais. D'accord ? Mais ne croyons pas que parce qu'on a cité tel verset et qu'ils lisent la Bible et qu'ils reconnaissent que c'est une autorité, ça suffit. Comprenez qu'il n'y a pas que la Bible comme autorité. Il faut vraiment garder ça en mémoire. C'est clair pour tout le monde ? J'ai perdu personne ? Vous m'interrompez, hein, si jamais vous ennuyez, vous dites c'est ennuyant, fait une image, je sais pas, danse, fait quelque chose. Non, n'hésitez pas. Hein. Donc on n'a pas tout à fait le même fondement, la même base. Attention, nous, théoriquement, notre fondement, c'est la Bible. Eux, il y a un peu plus de choses. Et parfois, du coup, on peut avoir une incompréhension. Parce que nous, on dit, mais la Bible, elle dit que. Et on dit, oui, je sais, mais mon prêtre a dit que. Alors, déjà, sur la notion de salut. Nous, on va dire, le salut, c'est par la foi en Christ. Parce que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Et si j'ai foi en sacrifice de Christ, alors j'ai l'assurance de mon salut. Là, qu'est-ce qu'on peut lire ? L'Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Donc on a besoin de l'Église pour être sauvé. Et ils disent que le Christ est médiateur et voie de salut. Ils n'ont pas dit que le Christ était le salut, ils ont dit que le Christ menait au salut. Mais l'Église est nécessaire au salut. Et c'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer alors qu'ils la seraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, ceux-là ne pourraient pas être sauvés. C'est fou quand même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire quoi le mot catholique pour vous ? Quand ils disent église catholique, c'est référence à quoi ?
Universel.
C'est le mot universel. Pour eux, catholique, ça veut dire universel. Pour ça que quand il y a eu les premières églises à Rome, ils appellent ça, bah, c'est la première église catholique. Bon, il y avait tous les chrétiens qui venaient, c'est l'église universelle. Ça, c'est-à-dire tout le monde. Okay ? L'église de tous les chrétiens. Et donc, ils sont en train de dire, si tu sais que c'est l'église universelle et que tu refuses d'y rentrer, bah, tu ne peux pas être sauvé. Et donc il y a ce besoin de l'Église pour être sauvé. Et pour être sauvé aussi, il faut persévérer dans la charité. Comment on pourrait dire ça en français un peu plus courant ? Persévérer dans la charité. Faire de bonnes choses, persévérer dans l'amour. Charité, c'est l'amour. Produire quelque chose de positif. Donc il y a cette idée-là. Et notamment, ce qui est nécessaire au salut dans la théologie catholique, ce sont les sacrements. Comme le baptême, comme l'Eucharistie, le mariage en étant un.
L'extrême onction.
Alors, on ne sait pas la subir tout de suite parce que c'est ce qu'on a avant de crever, mais voilà, on est un. Et a priori, on ne peut pas d'ailleurs, personne ne peut suivre tous les sacrements parce qu'il y a celui d'être prêtre et celui du mariage, et tu ne peux pas théoriquement pas les deux en même temps, donc voilà. Tu peux tous les faire sauf un. Donc, les sacrements sont nécessaires au salut. Et vous pouvez dire, oh, c'est peut-être pas très très actuel, ils ne parlent plus des sacrements aujourd'hui les catholiques, mais c'est encore dans la théologie. Hein. D'accord ? C'est vraiment encore dans la théologie. Et beaucoup de catholiques, d'ailleurs, s'insurgent quand il n'y a pas assez de prêtres, parce que c'est les prêtres qui peuvent accomplir les sacrements. Et si moins de prêtres, moins de sacrements, si moins de sacrements, aïe, moins de salut. Pour faire très très simple. Ok ? Donc il y a vraiment cette notion-là. Et moi, j'ai des amis séminaristes. Alors c'est quoi un séminariste ?
Qui se prépare à être prêtre.
Bah oui, quelqu'un qui est dans le séminaire, donc il se prépare à être prêtre. Et il me disait, non, non, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais les œuvres sont participantes au salut. Donc on a besoin quand même de faire des œuvres, mais on n'est pas sauvé par les œuvres. Et en fait, quand nous on pense des catholiques, on a envie dans notre tête des fois de mettre dans la catégorie « Ah, ils sont gros, salut par les œuvres ». Non, ils vont dire, si tu parles avec, voilà, elle est catholique, je parle avec elle, elle va dire « Oui, je sais que je suis sauvé par la foi en Christ, c'est pas les œuvres qui me sauvent ».
Je préfère non.
Non. Je sais que je suis sauvé par la foi en Christ, c'est pas les œuvres qui me sauvent, mais les œuvres sont participantes au salut. Et le problème, c'est qu'ils vont te dire « Oui, quand tu parles du salut par l'évangile, par la foi en Christ, ils vont dire « Oui, à 100%, je suis d'accord avec toi ». Mais les œuvres sont participantes au salut. Mais il y a les sacrements. Mais il faut que je accomplisse les rites de l'Église, il faut que j'aille dans l'Église catholique et que je suive les dogmes de l'Église catholique. Et en fait, c'est un salut où il y a Christ, mais pas que. Il y a Christ, mais c'est pas tout à fait suffisant. Je me souviens une fois, j'avais invité dans mon église à l'époque, j'étais à Montreuil, des amis avec qui j'avais passé le BAFA. Ça remonte, j'avais 19 ans quand je passais le BAFA. Ouais, ça remonte un petit peu. Bref, je suis jeune. Mais, et je les avais invités au culte, et j'avais vraiment fait un message pour eux. Ce jour-là, je suis prêché, j'ai vraiment fait un truc sur l'évangile, qu'est-ce que c'est, etc. En long, en large, en travers, vraiment annoncer l'évangile. Ils m'ont dit, ah oui, on est tout à fait d'accord avec toi, c'est très bien ce qu'on avait mangé après ensemble, c'est très bien, t'as tout à fait raison, etc. Et après, à la fin, j'ai posé la question. Donc du coup, voilà, avec tout ce que tu sais là sur l'évangile, est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Ah non. Est-ce que si demain tu meurs, tu sais où tu vas? Ah non, pas du tout. Et finalement, ça n'avait rien changé pour eux. Je leur ai dit plein de trucs, ils m'ont dit oui, on est d'accord, mais concrètement, dans leur tête, dans leur cœur, bah, ça n'avait rien changé. Ok, je suis d'accord avec tout ce que tu me dis sur l'évangile, oui, Jésus mort sur la croix pour mes péchés, etc. Mais j'ai quand même besoin des sacrements, j'ai quand même besoin de faire des œuvres, j'ai aucune assurance de mon salut. C'est ce qu'on appelle le péché de présomption. C'est un péché de croire en son salut, d'avoir l'assurance de son salut selon les dogmes catholiques. Et j'ai besoin de participer à l'Église catholique et de suivre un petit peu tout ce qui y est enseigné. Donc oui, il y a Jésus qui est mort sur la croix, ça, ils le sont tout à fait d'accord, ils disent qu'il a tout accompli à la croix, mais dans les faits, bah, en fait, son sacrifice, il n'est pas tout à fait suffisant, on a besoin d'autres choses. C'est clair pour tout le monde? Je perds personne? On est bon? Donc c'est là où c'est compliqué. C'est qu'on a envie d'en mettre dans la case, salut par les hommes, mais c'est pas tout à fait ça. Ils vont jamais vous dire qu'ils sont sauvés par les œuvres. Ils vont vous dire, on est sauvés par la foi en Christ, mais les œuvres sont participantes aussi. On a envie de les mettre dans la case, ce sont nos frères, ils pensent comme nous, ils ont la foi en Christ. Mais pas tout à fait, ils rajoutent plein de petites choses, parce que ce que Christ a fait à la croix, en fait, c'est pas suffisant selon eux. Le sacrifice de Jésus à la croix, on a besoin d'autres choses, c'est pas suffisant. On a besoin des sacrements, on a besoin d'autres choses. Et comment peut-on répondre à ça? Eh bien, il y a plein de versets qu'on pourrait prendre. Et on peut leur faire réfléchir sur ces notions-là en prenant le temps de lire des passages bibliques. Je donnerai les actions concrètes, moi j'allais dire en deuxième partie, on parlera un petit peu de ce qu'on peut faire avec nos amis catholiques, et je parlerai notamment du livre de Romains, j'en parlerai beaucoup un peu plus tard. Mais vraiment leur montrer que Jésus a tout accompli à la croix, et que si on croit en ce que Jésus a fait à la croix, d'après la parole de Dieu, on a l'assurance du salut. Et que si on n'a pas l'assurance du salut, si tu ne sais pas où tu vas si tu meurs demain, bah peut-être qu'il y a un petit problème quelque part à lui. Donc, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, et en rien d'autre. Et moi, j'aime beaucoup Éphésiens 2.10. Quelqu'un peut nous le lire, s'il vous plaît, quelqu'un. Alors, j'ai cité beaucoup de versets. Si quelqu'un ou quelqu'une veut bien nous les lire à chaque fois rapidement, le premier arrivé a gagné le droit de lire. Le premier ou la première arrivée, soit avec votre téléphone, soit avec une Bible papier. Voilà. Si quelqu'un veut bien nous lire Éphésiens 2.10, s'il vous plaît.
Je suis pas encore.
J'ai arrêté en fait.
Vas-y. Je suis encore en train de chercher. Désolé,
ça coince. 2-10. Yes.
Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car. Hein, c'est la même version que se meurt. Attends, je
vais faire ça. Bien lire en second si ça te dérange pas. Non mais c'est très bien ça meurt aussi, mais, peut-être un peu plus clair, peut-être en second, quelque chose comme
car
ça.
Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous y adonnions, pratiquement.
Ce qui est génial, c'est que Dieu a préparé de bonnes œuvres pour nous, et c'est parce qu'on est sauvé qu'on peut produire de bonnes choses. Le principe d'être sauvé, c'est qu'on est un arbre qui est enfin planté dans le sol, qui tire de l'eau, de la rivière, qui tire, exactement, qui tire ce dont il a besoin. Et c'est parce qu'on tire ces choses-là de Dieu, c'est parce qu'on est sauvé qu'on peut produire de bonnes choses. Aux yeux de Dieu, tout ce qu'on produit, c'est rien par nous-mêmes. Dans Tite, il est même dit que nous sommes incapables de la moindre œuvre bonne. Aux yeux de Dieu, on ne produit rien de bon. Et les seules choses bonnes qu'on fait, c'est grâce à Dieu. Quand je fais quelque chose de bien par moi-même, finalement, il y a de l'orgueil. Je le fais pas pour Dieu, je le fais pour moi. Tout ce qu'on peut produire de bien, on le fait parce qu'on est sauvé, on le fait par Dieu. Et non l'inverse. C'est parce qu'on est sauvé qu'on peut produire de bonnes choses. On est sauvé pour produire de bonnes choses. Et c'est pas parce qu'on fait des choses qu'on va être sauvé. Est-ce que c'est clair, ça?
Une fois, je parlais ça justement avec quelqu'un et je me disais que finalement, si on faisait des œuvres parce que ça participe à nous sauver, bah, techniquement, ce n'est pas des bonnes œuvres parce qu'elles ne sont pas gratuites.
Exactement.
Elles sont entre guillemets égoïstes parce qu'on le fait parce que.
On le fait pour obtenir une récompense,
voilà, pour obtenir quelque chose derrière. Alors que si on sait qu'on est parfaitement sauvé et qu'on n'a pas besoin de le faire pour être sauvé, bah, du coup, ça devient vraiment quelque chose de gratuit.
C'est bien résumé. Résumatrice officielle. Dès que tu as besoin d'un résumé, t'appelles Hélène. Bonjour Hélène, bien résumé. C'est exactement ça. Et c'est très bien dit. C'est vraiment exactement ça. Et donc ça, on peut le faire comprendre. Et ces questions-là qu'on peut essayer de poser à nos amis, c'est vraiment pas mal pour les faire réfléchir. Si tu es déjà sauvé, alors ça c'est des questions que eux peuvent nous poser, pardon. Si tu es déjà sauvé, pourquoi est-ce que tu essaies de faire du bien? Si tu es sûr de ton salut, toi, évangélique, si tu es déjà sauvé, pourquoi finalement tu fais de bonnes choses? La Bible nous le demande, c'est vraiment pour leur répondre ça, quoi d'autre? Que leur répondre? Elle est catholique, elle vient me voir, elle me dit, ok, t'es sûr de ton salut? Moi, je pense pas qu'on doit être sûr de son salut, je pense que c'est un péché. T'es sûr de ton salut? Si tu es déjà sauvé, pourquoi vas-tu essayer de faire encore de bonnes choses, de produire de bonnes choses?
Parce qu'on aurait fêté le Seigneur.
Parce qu'on aurait fêté le Seigneur.
Par reconnaissance et crainte de Dieu.
Par reconnaissance et crainte de Dieu.
Bah pour que les gens s'y voient qu'on est chrétien.
Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on essaie de faire de bonnes choses?
Moi, je dirais que c'est normal, en fait.
Exactement.
C'est normal.
Quand on est sauvé, est-ce qu'on juste on a compris quelque chose? Non, on est régénéré. Notre cœur de pierre, il est enlevé. On a un cœur de chair. On a Jésus, on a le Saint-Esprit, on a le Dieu éternel qui vient vivre en nous, qui fait de nous sa demeure, qui vient habiter en nous. Et c'est pour ça qu'on produit des choses. Ça émane de nous, non pas parce qu'on est quelqu'un de bien, mais parce que Dieu est quelqu'un de bien qui vient en nous. Et finalement, ça c'est une question intéressante qu'ils peuvent nous poser, là-dessus on peut rebondir pour vraiment les faire réfléchir. Moi, quelle question est-ce que j'essaierais de leur poser pour les faire réfléchir? Je leur dirais, mais justement, pourquoi est-ce que tu essaies de faire du bien si finalement tout ce que tu veux produire de toi, bah, c'est pas quelque chose de bien aux yeux de Dieu? Comment tu peux faire pour essayer de te racheter? Tu feras jamais suffisamment de bien pour te racheter. Et on peut essayer de le faire réfléchir autour de cette question-là. Une autre question qu'ils pourraient nous poser, c'est, est-ce que c'est pas un petit peu se la péter que de dire qu'on est sauvé? Parce que franchement, voilà, est-ce qu'on n'est pas des bonnes personnes, on n'est pas si parfait que ça? Comment est-ce que tu peux affirmer, oh, oui, je suis sauvé? Comment leur répondre à ça?
C'est Jésus qui nous rend parfait.
C'est Jésus qui nous rend parfait, ouais.
Non, on n'est pas sauvé parce qu'on est meilleur que les autres, en fait. On est sauvé parce qu'on croit en Christ.
Ouais.
Donc du coup, ça vient pas de nous, en quelque sorte.
Mais cette assurance du salut, est-ce qu'on la voit par quelque part dans la Bible?
La promesse de Dieu.
Ouais.
Il a été dit, quiconque croit en moi ne se périsse point.
Exactement, tu cites Jean 3,16.
Et qu'il disait aussi également, sauf qu'on n'est pas parfait, en fait, on n'apprend pas à comprendre. Enfin, on ne te prend pas pour un sage, mais plutôt apprendre à comporter comme des sages. Donc c'est là où on montre en fait que tu es vraiment si sage que ça, parfait que ça. Enfin quand non, on dit qu'on n'est pas parfait, mais on apprend à être parfait plutôt pour refléter à Dieu que de se la montrer que on est parfait parce qu'on est chrétien, on est des sages. Au contraire, non, on montre que peut-être on n'est pas parfait, mais on apprend à être parfait, essayer de faire nos mieux pour ressembler à Dieu, quoi.
Exactement. Et moi je trouve que ces questions un peu. Pardon, vas-y.
Parce que du coup on croit qu'on est sauvé parce que Dieu nous dit qu'on l'est. Donc quelque part, c'est croire en Dieu.
Exactement. Tu citais Jean 3. Celui qui croit a la vie éternelle, ce qui ne croit pas est déjà condamné, la colère de Dieu demeure sur lui. Ah, c'est présent. La parole affirme partout, en fait, que si on est sauvé, on a la vie éternelle. Et ces questions provoquent, moi je suis fan de ça. Si vous posez un petit peu une question provoque, c'est génial pour rebondir et essayer vraiment de les faire réfléchir. En fait, retournez la question contre eux.
J'ai aussi eu des questions concernant de ça. On dit que, puisque en fait Dieu est mort sur la croix pour nous, pour laver nos péchés, c'est-à-dire qu'on est déjà sauvé, pourquoi on a besoin autant encore de suivre la Bible ou faire ce que Dieu nous demande?
C'est une bonne question. Mais Jésus est-il mort pour tout le monde sur la croix? Pour tous ceux qui y croient, tous ceux qui croient en lui. Tant qu'on n'a pas cette foi active dans ce qu'il a fait, on n'est pas un de ses enfants.
Mais Dieu a amour, du coup il nous sauve.
Justement. Est-ce que Dieu a sauvé tout le monde? Est-ce que dans la Bible on voit des gens qui ne sont pas sauvés? Plusieurs personnes ont dit que lui il a péri, que. Même regardez le terme suivant, il est quand même choquant, fils de perdition, c'est quand même violent. Quand on parle de Judas, que joue mon frère d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure. Fils de perdition. Est-ce que tout le monde est sauvé? Non. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas sauvé tout le monde? Mais concrètement, est-ce que tout le monde est sauvé? Non. Beaucoup rejettent Dieu et on voit plein d'exemples dans la Bible de personnes qui ne sont pas sauvées. La parabole avec l'homme riche et Lazare, l'homme riche est déjà dans un lieu où il souffre, parce qu'il n'a pas voulu se remettre en question sur sa manière de vivre. Donc tout le monde n'est pas sauvé. Et ça montre bien que Jésus n'a pas sauvé tout le monde à la croix. Mais seulement ceux qui ont une foi active en lui. Et je vais avancer un petit peu. Alors attendez, voilà. Ce que j'ai dit là, c'est que il y a plusieurs questions qui peuvent nous poser. Il faut utiliser ces questions un peu provoques pour vraiment essayer de les faire réfléchir sur ce qu'ils croient du salut. Comprenez bien qu'en gros, eux, leur salut, c'est une sorte de salut par la foi avec des œuvres un petit peu mêlées de tout ça. C'est un salut mêlé d'humains, d'accord, où l'homme produit quelque chose. Autre chose aussi sur le pardon des péchés. Finalement, qui pardonne nos péchés? Est-ce que Tatiana vient voir et dit « Ah, écoute mon frère, j'ai péché. » Est-ce que je pourrais oser lui répondre « Tatiana, tu sais, je te pardonne hein, tes péchés. » Si je lui fais ça, après, Tatiana me répondrait « Mais Tim, redescends sur terre, c'est quoi ton problème ?» Enfin... Et justement,
la confession, les...
Ah, mais où est-ce que la parole entend la notion de confession? Confessez-vous les uns aux autres vos péchés dans la crainte de Dieu. C'est quoi ce mot confesser? Si on reprend le texte.
Se confier à tous les péchés.
Confier aux uns aux autres nos problèmes, nos péchés, nos erreurs. Est-ce qu'on peut se pardonner les uns aux autres nos péchés? Qui peut pardonner? Les pharisiens étaient choqués de la manière dont Jésus agissait. Parce qu'ils ne disaient pas « Ah, je pense que tu peux te pardonner. » Ils disaient « Je te pardonne. Tes péchés sont pardonnés. Jésus pardonne les péchés. » Et ça choquait les pharisiens parce que seul Dieu peut pardonner les péchés. Donc, finalement, ils pensent que l'Église a le pouvoir, par des intermédiaires, qui seraient des prêtres, etc., de pardonner les péchés. Mais comprenons qu'on n'a pas besoin d'intermédiaires pour pardonner nos péchés, on n'a pas besoin éventuellement d'un homme qui est prêtre ou de quelqu'un. Pourquoi? Parce que, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. On peut parler directement à Dieu, et on a l'assurance que, s'il est mort pour nous à la croix, il peut pardonner nos péchés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image, ça apparaît très souvent. Il y a une sorte de fossé entre nous et Dieu. Enfin, c'est très très connu, hein, ce genre de petites images. Et puis paf, on met une croix au milieu qui nous permet d'accéder de l'un à l'autre. C'est connu, non? Vous avez déjà vu ça comme dessin ou comme image? Je ne sais pas vous le dessiner, je ne sais pas dessiner. Mais l'idée est très simple. Jésus, c'est ce qui nous permet d'aller directement à Dieu. Le lien était rompu entre Dieu et moi parce que je suis un pécheur. Mais quand Christ me rend parfait en mourant pour moi à la croix, en me justifiant parfaitement, eh bien je peux aller directement à Dieu. Et j'ai pas besoin de passer intermédiaire pour pardonner mes péchés. En fait, c'est presque plus facile. Tu as envie que qui regarde ta vie et tout ce que tu as fait? Un homme qui est le prêtre qui ne connaît pas parfaitement? Ou le créateur de l'univers qui sait tout de le moindre recoin? Si quelqu'un devait jeter un œil sur les zones sombres de ma vie, je préférerais que ce soit quelqu'un qui est un homme, qui ne connaît pas tout, qui n'est pas très regardant, plutôt que Dieu lui-même qui sait tout ce que j'ai fait et à qui je ne peux rien cacher. Et c'est presque plus facile hein, de dire à un prêtre « Oh, tu sais, j'ai fait ça, c'est pas très bien, mais bon, tu me pardonnes. Hein. » C'est presque plus facile. Mais j'ai besoin d'un pardon parfait en Jésus-Christ. Et je vois, je vais laisser plein de petites références. C'est aussi pour cela que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Je vais avancer un peu parce que l'heure tourne, « Time is running out », comme disent nos amis anglo-saxons. Parlons rapidement aussi dans la notion de salut du purgatoire. C'est quoi, selon vous, le purgatoire?
C'est une salle d'attente.
C'est une salle d'attente, comme chez le médecin. Je sais pas, t'as un rendez-vous à 8h, mais t'es jamais prêt à 8h. Quoi d'autre? C'est une salle d'attente ou juste attends?
Bah, c'est là où t'es censé...
C'est un deuxième sauna. C'est quand je vais dans un sauna, t'arrives les toxines.
En fait. Tu vas pas directement en enfer, mais tu vas dans le purgatoire, et là, si les gens prient pour toi...
Exactement, l'idée, simplement, c'est que, bon, tu as envie d'aller au ciel, t'es pas encore complètement purifié, il y a encore des petites impuretés sur toi, bah tu vas aller souffrir un petit peu, comme ça, ça terminera de purifier ce qui te manque, ce qui te manque parfaitement bien comme il faut. Ok? Sauf que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, finalement, que... Le sacrifice de Jésus, il n'est pas complètement suffisant pour nous purifier. En gros, Jésus, si tu crois en lui, t'as purifié, mais pas assez. T'as besoin encore du purgatoire. Il t'a pas tout complètement purifié, il reste encore des petites impuretés. Il n'a pas tout enlevé, il y a encore des traces de boue, tu as besoin d'aller au purgatoire. Donc le gros problème avec cette doctrine, c'est quoi? C'est ça attaque le sacrifice de Jésus. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est pas suffisant. Mais qu'est-ce que nous, on peut dire maintenant que nous sommes justifiés par son sang? Nous serons sauvés par lui de la colère. Nous sommes parfaitement justifiés. Et le mot justifié apparaît beaucoup dans le Nouveau Testament. On pourrait mettre 15 000 références par Jésus. Et ça, c'est important de leur faire comprendre. Attends. Tu crois au sacrifice de Jésus, tu crois en ce qu'il a fait à la croix. Très très bien. tu sais pas où tu vas quand tu mourras. Ok. Donc tu sais pas où tu vas quand tu mourras. Tu penses que finalement tu vas peut-être aller au purgatoire, donc tu penses que tu auras un temps d'attente. Tu penses que Jésus n'a pas complètement payé pour toi à la croix. Mais alors pourquoi il y a ce verset-là, et ce verset-là, et ce verset-là? Qu'est-ce que tu en penses? Et on peut vraiment faire réfléchir sur la notion du sacrifice de Jésus. Ah bah ouais. En fait, Jésus, il n'est pas seulement, mort à la croix. Il a tout pris à la croix. Il nous a complètement purifiés. Il a tout fait. Il faut leur faire réfléchir ces dés-là, en prenant le texte, en prenant le temps d'eux. Voilà, on parle de gratuitement justifié, par sa grâce, par le moyen de rédemption. Je vais avancer un petit peu vite si je vais trop vite, hein. Mais niveau timing, ça va être compliqué. Rapidement, le rôle d'intermédiaire, alors en fait il y en a plein, on pense à prier les saints, on pense à prier les anges aussi, prier les morts, les prières aux morts, on pense à Marie, je mets tout dans le même paquet. Pour moi, c'est quoi le problème dans tout ça? C'est qu'ils font des intermédiaires entre Dieu et l'homme. Excuse-moi, c'est quoi ton prénom?
Alice.
Si je veux parler à Alice, mais que je passe à chaque fois par quelqu'un d'autre, je passe à chaque fois par Hélène pour parler avec Alice. Je peux lui parler directement. J'ai un intermédiaire entre Alice et moi qui est Hélène. Ok? Et je vais parler à Hélène pour intercéder auprès d'Alice. C'est-à-dire que j'ai quelle relation avec Alice finalement? Elle est assez distante. J'ose même pas m'adresser à elle directement.
Ça passe par le filtre
d'Hélène. Ça passe par le filtre d'Hélène. Alors, on va dire qu'Hélène rapporte fidèlement. Hein. Hélène ne pose pas de problème. Mais...
Ouais, c'était juste pour l'image.
Ah d'accord. J'ai une relation assez distante, je peux m'adresser directement à Alice. Et finalement, donc je prends quelques références où il parle de ces intermédiaires. Il y a un verset, moi, qui me touche beaucoup, 1 Timothée 2,5. Alors, quelqu'un va le prendre. Alors, est-ce que... Qui veut bien le prendre? On va dire que... C'est quoi ton prénom, s'il te plaît? Eliane prend le verset. Et pendant qu'elle le prend, juste vous raconter un petit quelque chose, encore que mes amis séminaristes, c'est les mêmes en plus. Une fois, ils m'ont parlé des intermédiaires, ils m'ont dit « Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, le prêtre. » Alors, c'est ce qu'ils m'avaient dit à ce moment-là. C'est une parole d'homme, hein, ils ne sont pas parfaits, ils m'ont dit ça. Et là, j'ai envie de leur répondre le verset suivant. «
En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, mon homme, Jésus-Christ. »
Car il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, ou médiateur, sur la traduction, Jésus-Christ, homme. Qui est notre intercesseur, qui est notre médiateur, qui est celui avec qui on peut directement prier? Jésus. Et le problème de tous ces trucs-là, c'est que finalement, ça va réduire la portée du sacrifice de Jésus. Je ne peux pas parler directement à Jésus, je peux passer par sa mère, du qui il est très très proche. Je ne peux pas parler directement à Jésus, je peux passer par d'autres choses. Et ça contredit le fait que Jésus a tout accompli à la croix. Je vous ai encore mis d'autres références, hein, mais on pourrait en prendre beaucoup. Jésus, notre seul intermédiaire, j'ai pas besoin de passer par quelqu'un d'autre. Et encore là, on peut essayer de les faire réfléchir. Pourquoi tu as besoin de ces intermédiaires-là? Qu'est-ce qui t'apporte? Pourquoi tu pourrais pas parler directement à Dieu? C'est-à-dire qu'il y a une relation distante avec Dieu. C'est une relation distante avec Dieu. Comment est-ce qu'il pourrait t'accepter dans son paradis, en son sein, avec lui, dans la vie éternelle? Vraiment poser des questions sur ces choses-là, les faire réfléchir. Je vais aller rapidement encore sur dernière chose. Alors, c'est quoi la transsubstantiation? Est-ce que quelqu'un sait?
C'est
quasiment ça. Enfin, dans l'idée, c'est que le morceau de pain se transforme littéralement en un morceau du corps de Jésus et le vin littéralement en sang de Jésus. Alors je ne rentrerai pas dans les détails, moi c'est pas ça qui me choque. À la rigueur, qui croit que c'est du sang, qui croit que c'est de la chair, je m'en fiche. Ce qui me choque, c'est que le principe de la messe, c'est de resacrifier Christ. Alors j'ai mis dimanche, mais la messe n'est pas forcément dimanche. Hein. À chaque fois qu'il y a une messe, tu resacrifies Christ. Ce que Jésus a accompli comme sacrifice, il n'a pas été fait une fois pour toutes dans l'histoire. Chaque fois que tu as une messe, tu as un resacrifice de Christ. Genre Christ, il est resacrifié 500 000 fois par an. Quoi. Cette année, il y a eu 503 000 sacrifices de Christ.
C'est ça, c'est toutes les messes dans tout le monde entier.
Voilà, c'est pour ça que je dis 500 000. Mais... Et ça veut dire que Jésus n'est pas accompli quelque chose de complet, de une fois pour toutes à la croix. Regardez ce que dit Hébreux 9. Il est entré une fois pour toutes dans le très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Le problème, c'est qu'encore une fois, ça attaque le sacrifice de Jésus. On a besoin de le resacrifier pour être pardonné, parce que ce qu'il a fait, c'est pas suffisant. Donc pour moi, c'est même pas « Ah, il croit que c'est du corps, il croit que c'est pas que c'est du pain, oh, il est bizarre. » C'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange le plus dans tout ça, c'est que ça attaque la portée du sacrifice de Jésus. C'est ça qui me choque le plus. Rentre pas dans les détails techniques. Jésus, ce qu'il a accompli à la croix, c'est pas suffisant. Et pour conclure, en fait, on a une religion, mais avec un sacrifice de Jésus qui est imparfait. Et l'être humain qui va essayer de s'en sortir à travers ses œuvres, sa foi, ses sentiments, à travers tout ce qu'il fait. ce qu'il a accompli Jésus, c'est pas suffisant, il faut que toi tu produises quelque chose. Et finalement, c'est pas si caricatural. Au début, je disais, il y en a des évangiles qui mettent les catholiques que dans la case « Oh là là, c'est vraiment pas bien, ils croient du grand n'importe quoi ». Il y en a qui mettent dans la case « Oh là là, c'est vraiment nos frères en Christ, ils croient comme nous ». Mais c'est beaucoup plus subtil. De manière très délicate, dans plein d'aspects, ils vont attaquer, réduire le fait que le sacrifice de Christ soit complet, total et parfait pour nous. Il faut avoir ça en tête. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, ayez en tête que vos amis catholiques, votre famille ou vos amis ou les personnes catholiques autour de vous, du coup, ils ont ça en tête. Ils vont être d'accord avec vous sur plein de choses. Mais, finalement, au fond, leur salut, c'est un petit peu un salut par les œuvres. Finalement, au fond, ils ont besoin d'agir pour se sauver. Et ça, c'est ancré dans leur esprit. Et nous, il faut qu'on ait ça en tête. Moi, ce que je ne supporte pas quand je discute avec quelqu'un, quand je fais des évaluations, quand j'échange, je témoigne, c'est qu'ils me disent « Ah oui, t'as raison. Ah oui, oui, oui. » Je ne supporte pas quelqu'un qui acquiesce à tout ce que je dis. C'est nul. Parce que comment on peut échanger si on est d'accord sur tout? Et au final, quand on est d'accord sur tout, c'est parce qu'on ne rentre pas dans les détails. Mais si on creuse un petit peu dans les détails, eh bien on se rend compte qu'on a une religion qui est certes a priori fondée sur la parole de Dieu, mais en fait, dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils disent, eh bien, de manière très très subtile, petite couche par petite couche, on vient attaquer le sacrifice de Christ. C'est un petit peu comme quand tu achetais un beau gâteau, tu l'as mis dans ton frigo, c'est pour un événement. Et puis tu te dis, bon, si j'en prends une part, c'est pas grave, ça se verra pas. Puis t'en prends une deuxième, puis quelqu'un va chez toi, il en prend une troisième. Et petit à petit, on attaque le gâteau. À la fin, le gâteau, il n'est plus présentable. Tu ne peux pas présenter ça, ça ne se fait pas. C'est un peu la même idée. De manière assez subtile, couche après couche, tous ces dogmes qui sont un petit peu peut-être différents de la parole de Dieu, eh bien, c'est qu'il y a... Le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant. Et c'est ça le gros problème. C'est là-dessus qu'il faut les faire réfléchir. Et c'est vraiment à ça qu'il faut avoir en tête. Parce que parfois, on pense qu'ils croient du grand n'importe quoi, qu'ils ne lisent pas la Bible, alors que moi, j'ai des amis catholiques charismatiques à qui j'ai témoigné pendant 2 ans, et ils connaissent parfois la Bible mieux que certains évangéliques. Ils la lisent très régulièrement, ils font des études, ils sont à fond dedans. Mais vraiment, hein. Mais au fond du fond, dans leur cœur, il n'y a pas eu de changement. Au fond du fond, dans leur cœur, ce qui se passe, c'est que, eh bien, il y a un salut un petit peu humain. Je me sauve, en fait. Alors, est-ce que tous les catholiques sont perdus? Je pense qu'il y a des personnes sauvées dans l'Église catholique. Je pense que toute personne mature dans la foi en Christ est appelée à sortir de l'Église catholique. Ça peut prendre des années. Je pense que moi, je connais quelqu'un comme ça, je dirais pas que c'est un ami, mais que je connais un petit peu, qui a mis peut-être 20 ans à sortir de l'Église catholique, alors qu'il était vraiment converti. Mais je pense que tout chrétien sincère est appelé à sortir de l'Église catholique. Pourquoi? Parce que c'est une religion, il y a aussi de l'humain, et il y a peut-être trop d'humain. Maintenant, il ne faut pas leur dire de sortir de l'Église, il faut leur annoncer ce que c'est que l'Église, il faut leur parler de ce que c'est que Christ, de ce que c'est que l'Église, et d'eux-mêmes, des choses devraient changer dans leur vie. Il y a une amie à qui j'ai beaucoup parlé, une amie catholique à qui j'ai témoigné et qui s'est convertie par la suite, à qui j'ai beaucoup échangé sur ces sujets-là, et je ne lui ai jamais dit de sortir de son église. Je ne lui ai jamais dit quitte l'église catholique, va dans une église évangélique. Je ne voulais pas que ce soit une bagarre d'église, genre où les protestants c'est mieux que les catholiques. C'est pas du tout l'idée. Les protestants, les catholiques, on s'en fout. Ce qui est important, c'est la foi en Christ. C'est le fait que Christ nous sauve. Et je lui ai fait réfléchir. Ce que j'ai fait, c'est qu'on a fait des études sur la Bible. On a pris du temps, on s'est vu régulièrement. Et notamment, on a fait une étude sur qu'est-ce que c'est que le modèle de l'Église, c'est quoi l'Église, pourquoi l'Église, etc. On a fait des études sur plein de sujets. Et au fur et à mesure de ces études, cette personne s'est rendue compte que bah, ce qu'elle vivait quand elle allait à l'Église, c'était pas vraiment ce que la parole demandait. Elle se rendait compte que bah, là, ce qu'elle avait entendu à telle homélie, à tel culte, telle messe, bah, c'était pas tout à fait ce qu'elle aurait dû entendre. Et au fur et à mesure d'elle-même, cette personne s'est dite « Tim, tu connaîtrais pas l'adresse d'une église évangélique pas trop loin de chez moi ?» Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on n'est pas là pour leur dire « Je suis quelqu'un de mieux que toi », on n'est pas là pour leur dire « Les protestants, ils ont raison, les catholiques, ils ont tort », c'est pas l'idée. Il y a des protestants qui sont dans l'erreur la plus totale. On est vraiment là pour leur faire réfléchir sur ce que Jésus a fait à la croix, et par des questions, par le fait de se voir, par le fait d'étudier éventuellement la Bible ensemble, de faire réfléchir sur des versets de la Bible, qui sont une de leurs autorités, leur montrer que Jésus a tout accompli à la croix. Est-ce que c'est clair ou j'ai perdu quelqu'un là-dessus? Vous me dites hein, si je parle trop et... C'est bon? Donc, c'est un salut mêlé d'humains. Vous voyez que j'ai pas pris tous les dogmes. Le bouquin sur lequel je me suis fondé pour faire ce petit PowerPoint, j'ai pris quelques petites choses par-ci par-là, mais il y a plus de 200 pages. Donc j'aurais pu continuer comme ça pendant 3 heures. Quand on faisait, il y a 4 ou 5 ans à Saint-Maur, on avait fait ça, etc. J'avais pris 5, 6, 7, 8 dogmes de plus qu'on avait étudié en détail. Mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails, je vous donner un petit peu une vision d'ensemble. Pourquoi ? Pour que vous ayez en tête, tiens, qu'est-ce que, en gros, peuvent penser mes amis catholiques ? Et comment est-ce que moi, à travers des questions, à travers le fait de « viens, on se pose, on prend un temps, on va lire la Bible, on va réfléchir sur tel sujet, tel sujet, tel sujet », eh bien, je peux prendre le temps de les faire réfléchir. Ok ? Et j'aimerais aussi nous laisser des moyens concrets. Vraiment, j'aimerais qu'on reparte avec des outils concrets, pas juste qu'on se dise « oh, bah, c'est bon, j'ai eu des idées, etc. » Et j'aimerais aussi qu'on ne mette pas tout le monde dans une case. Comprenez bien que on peut pas dire « les catholiques pensent que ». Il peut y avoir plein de façons de penser différentes. Là, ce que j'ai fait, je me suis fondé sur le catéchisme selon Jean-Paul II, et la manière dont il explique, mais peut-être qu'un catholique va me dire quelque chose complètement différent. Prenons le temps d'écouter les gens, de leur demander en quoi ils croient, c'est quoi leur croyance, de leur expliquer ce en quoi ils croient et pourquoi ils y croient, et d'adapter éventuellement notre discours. Et j'aimerais vous laisser quelques petits outils concrets. Il y en a une multitude, mais tout d'abord, la route romaine. Alors, ça c'est génial. C'est un jeu de mots qui marche pas en français. The Roman's Road. En anglais, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, Roman, c'est l'épître aux Romains. Road, c'est la route. Donc ça fait la route de l'épître aux Romains. Ok ?
Pourquoi ça marche pas en route romaine ?
Bah, parce que ce serait la route romaine. Enfin, nous on dit romain, on dit l'épître de Romain, on dit pas l'épître de Romaine. Bon, on pourrait, mais ce serait bizarre. Donc, ça marche pas tout à fait. Et en fait, ça c'est génial.
Tu veux dire la route des Romains ?
La route romaine, en fait, c'est pas moi la traduction. Allez-y, hein, faites-vous plaisir.
Ça marche la route romaine. Du coup, ça les détourne de l'église.
Ça marche moins bien quand. Ça marche moins bien qu'en anglais. C'est rigolo parce que l'église de Rome, la route romaine, pardon. Et ce qui est génial, c'est que moi, vous savez, j'ai une partie de ma famille qui est catholique, la partie du côté paternel. Et mon grand-père, c'est quelqu'un de super intelligent, super instruit. Il a plus de 80 ans, fait des études avec les vieux autour de son quartier sur des notions de catéchisme, etc. Machin. Le gars est général 3 étoiles, polytechnicien, enfin c'est pas monsieur tout le monde. Hein. Et il nous a sorti une fois.
Il est sauvé aussi ?
Non, je pense pas. Ah. Il nous a sorti une fois. Je n'ai jamais compris le livre de Romain. Ah. Excellent. Alors que c'est un grand connaisseur de plein de trucs. Il nous a refait des études sur des trucs de généalogie, de machin, de chemin mince. Mais il est plus instruit que moi, c'est un truc de fou. Mais il n'a jamais compris le livre de Romain. Et nous, je vous invite à utiliser le livre de Romain. Pourquoi ? Parce qu'à travers la lecture de tout ce qu'on a dans le livre de Romain, on a vraiment en détail ce que c'est que le salut et l'évangile de manière claire et simple. Et en fait, moi je proposais ça en 8 séances, parce que les Romains 1 à 8, il y a 8 chapitres du coup, et on peut découper un peu comme on veut. Et vraiment, petit à petit, doucement, tranquillement, Paul, il prend le temps d'expliquer que, bah, que t'es pécheur, que t'as besoin de Dieu et ce que c'est que le salut. Et c'est génial. Comprenez pourquoi est-ce que Paul fait ça ? Eh bien, un des buts de l'épître de Romain, c'est que Paul, il veut chauffer, il veut motiver l'église de Rome à aller avec lui en Espagne. On voit ça dans Romains 15, où il leur parle d'aller ensemble en Ibérie, enfin la péninsule ibérique, du coup ça représentait plutôt l'Espagne ou le Portugal à l'époque. Okay ? Donc il veut motiver l'église de Rome à venir, on va tous ensemble en Espagne évangéliser. Et pour les motiver, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il rappelle ce que c'est que l'évangile et le salut. C'est clair ? C'est comme si je voulais motiver un projet missionnaire Samuel. Plutôt que de dire, allez, viens avec moi, viens, on va s'amuser. Je vais dire, mais... Tu sais ce que Jésus l'a fait pour toi à la croix ? C'est quoi le salut pour toi ? Et je vais le faire réfléchir sur ce que c'est que le salut, à quel point c'est fou. Et après, Samuel va venir à ta raison, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on ait une mission ensemble, c'est trop un truc de fou. C'est un peu ce que Paul fait dans l'épître aux Romains. Et il prend le temps en 8 chapitres de vraiment bien détailler ce que c'est que l'évangile. Vraiment en détail. Alors ça peut paraître compliqué à comprendre, pour ça que je pense qu'il faut essayer d'expliquer simplement, pas rentrer dans des grands trucs théologiques très très compliqués. Moi je suis resté sur des notions simples, sur quelques versets clés. Vraiment, hein. On lisait tout le chapitre, mais on rentrait pas dans tous les détails. Et j'ai fait ça avec des amis catholiques. Vraiment, je pense que ça les a bien fait réfléchir sur plein de notions. Romains 1 à 3, finalement, nous résume le fait qu'on est coupable, juif comme non-juif, et qu'on a besoin d'un salut, parce qu'on peut pas se sauver par nous-mêmes, on mériterait de passer l'éternité loin de Dieu. Romains 4 et 5 nous parle de ce que c'est que la foi et la justification en Jésus. C'est quoi être justifié ? On passe de l'état où on est condamné à l'état où on est justifié. Romains 6 nous pousse de bah, si t'es vraiment sauvé, en fait tu devrais pas continuer à pécher, c'est pas parce que t'es sauvé que tu peux dire oh, je peux continuer à pécher, c'est pas grave. Mais ça, une vraie grâce, ça pousse à t'éloigner du péché, et ça répond aussi à cette question de nos amis catholiques qui se posent cette question là, hein, on l'a vu tout à l'heure. Romains 7 nous parle finalement du problème du péché un petit peu au quotidien. Paul qui dit je fais ce que je hais, ce que je ne veux pas. Et enfin Romains 8, c'est Romains 8, y a pas de mots, franchement. J'ai rien à dire sur Romains, lis Romains, quelqu'un veut bien nous prendre Romains 8 s'il vous plaît. On va prendre des versets, allez, quasiment au pif dans Romains 8, c'est génial Romains 8. Il y a besoin de beaucoup détailler. Hein.
Bon, bref, on
c'est vrai. Alors moi, j'évite de rentrer dans ce... C'est pas que c'est pas intéressant, ce genre de débat, mais en fait, commençons vraiment par l'évangile, simplement. Mais c'est vrai que tout n'est pas toujours simple dans l'épître aux Romains, pour faire plus simple. Je suis d'accord avec toi. Mais t'as des versets qui sont d'une clarté, d'une limpidité...
Sur un verset comme ça ?
Regarde, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sur l'assurance du salut, c'est génial. T'es pas condamné. Sur le purgatoire, c'est génial. Sur où est-ce que tu vas si tu meurs, c'est génial.
Mais Dieu voit le fond du cœur, il sait ce que l'Esprit Saint veut demander. Oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent.
Exactement. Je ne sais pas quoi demander à Dieu, mais quand Dieu est en toi, c'est lui qui fait, qui change les choses. Et des versets, moi, c'est ces versets de la fin notamment qui sont extraordinaires. Voilà, et même avant. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu le sais, Dieu il te le dit en fait. Ou alors, Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les chrétiens ont une réponse à la souffrance. Et la fin, qui est extraordinaire.
Jusqu'à 17h30, question comprise.
Toi, t'es quelqu'un de bien, toi. Parce que c'est vrai que les botaniques, je suis désolé. Hein. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, qui sont appelés selon son dessein. Et la fin, comme tu disais tout à l'heure, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui le condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à droite de Dieu. Il intercède pour nous. Et on pourrait continuer, il y a tout le chapitre en long, large, en travers. Voilà les conséquences d'une vraie vie transformée. Et toi, ami catholique, est-ce que ça, tu le vis? Ça, c'est les conséquences d'une vraie vie chrétienne transformée. Est-ce que ça, tu le vis? Sinon, c'est que peut-être il y a un problème quelque part. Je ne suis pas en train de dire que moi, protestant, je serais meilleur que toi. Je suis en train de te dire que l'évangile est la réponse à tous tes problèmes, toutes tes questions, et qu'éventuellement, tu ne penses pas toujours correctement. Moi, le premier, je ne pense pas correctement. Mais la parole de Dieu, là, pour nous aiguiller, nous met dans la bonne direction. Et ici, on voit ce que c'est qu'une vraie vie transformée et chrétienne. Et donc, la route romaine, moi, je trouve que ça marche du tonnerre. Alors, j'ai pris mon ordi, mais j'ai pas le temps de vous le montrer parce que j'ai juste mis le PowerPoint sur ma clé, là. Mais j'ai un fichier comme ça, où j'ai préparé, pour Romains 1, j'ai fait une petite feuille avec les trucs à lire. Donc, j'ai mis tous les versets, d'accord? J'ai fait un copier-coller depuis la Bible, quoi. Et j'ai mis quelques questions, j'ai mis des titres, j'ai mis quelques petits trucs, enfin un truc un petit peu simple d'accès, un peu pédagogique. Et en gros, ça nous faisait 45 minutes, une heure de séance. Ça dépend des gens, on peut faire moins, on peut faire plus, on peut faire plus simple, on peut faire plus compliqué. On peut juste prendre quelques versets par-ci par-là, mais vraiment, c'est très 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 clair pour c'est quoi l'évangile. Même si vous avez du mal à expliquer à quelqu'un c'est quoi l'évangile. Vous rentrez chez vous, vous avez 5, 10, 15, 20, une demi-heure à tuer. Ok, posez-vous, lisez Romains 1 à 8. C'est une limpidité. Pourquoi est-ce que je parle? Je veux dire, laissons la parole parler, quoi. C'est vraiment, c'est extraordinaire. Et donc ça, c'est vraiment un outil extraordinaire, moi, je trouve. Le fait aussi simplement de se poser, d'avoir des études avec eux, c'est la parole qui les convaincra. Prenons le temps de se poser avec nos éventuels amis catholiques et d'échanger sur ces sujets-là, d'écouter ce en quoi ils croient, d'écouter leur point de vue, et prenons le temps d'échanger. Si on ne se pose pas, et qu'on a un évangile un peu Big Mac de « mais la foi c'est ça, t'as rien compris », mais ils vont jamais changer. Je sais pas si vous avez déjà dit « c'est la nouvelle année, je vais prendre des bonnes résolutions, je vais changer ». Combien de fois ça marche? On ne se change pas, hein. Plus on vieillit, plus on se rend compte qu'on ne change pas. Alors je dis pas ça, je suis pas vieux, mais...
C'est la première semaine, oui, on a changé.
Mais oui, on ne se change pas, mais Dieu nous change, et Dieu peut changer le cœur. Comptons sur l'aide de Dieu pour transformer les cœurs. Nous, on ne se change pas, et oui, vraiment, c'est une bataille dans la prière.
Le jeûne.
Et également, c'est une réflexion qu'il ne faut pas négliger. Le jeûne, pas le jeûne.
Jeûner.
Ah, jeûner, hein.
Jeûner, pas jeûner.
Mais si, ouais, c'est bizarre.
Quand même. Non, parce que... Tatiana se considère aussi comme jeune, on a le même âge, donc voilà. Alors... Je pense aussi qu'il faut poser les questions qui fâchent, mais de les poser intelligemment. Rentrons pas trop dans l'art. Une fois, bon, j'ai pas toujours été fut-fut dans ma vie, des fois je suis un peu rentre-dedans, un peu beaucoup même. Et ma cousine, j'avais un peu vexé, parce qu'elle est catho, et je vais sortir, c'est quoi pour toi la foi que ça? Elle dit, ah, mais croire en Dieu, fais tout un discours sur croire en Dieu. Et je vais citer Jacques 2,19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi, et ils tremblent. En Dieu, c'est une foi de démons. Seulement croire en Dieu, bah, les démons aussi, ils croient en Dieu, quoi. J'avais été un peu rentre dedans, je pense, un peu trop. Donc, attention à nos questions. N'hésitons pas à interagir, mais soyons un peu sages. Hein. Le but n'est pas de défoncer tout sur notre passage, bien évidemment. Des questions comme, si tu meurs demain, où iras-tu ? Es-tu certain du pardon de tes péchés, de tes erreurs ? Si oui, tu es vraiment certain, si vraiment Jésus a tout accompli, pourquoi t'es... Ouh, je me suis couru, tu n'es pas certain, pas de ton péché, mais de ton salut. Je voulais dire salut, excusez-moi. Moi, j'étais fatigué quand j'ai fini PowerPoint. Hein. J'ai fini hier soir. Bref, pourquoi es-tu pas certain de ton salut ? Ok ? Si vraiment Christ a tout pris à la croix, tu devrais être certain de ton salut. Or, tu ne l'es pas. Comment nos actions, ce qu'on fait de bien, de mal, etc., ça pourrait racheter une seule de nos erreurs si Dieu est parfaitement saint ? Imaginez l'image du verre et du poison. Si je prends un verre d'eau et que je mets une goutte ou deux de cyanure dedans, que je dis à... Anthony. Et que je dis à Anthony, écoute Anthony, je suis vraiment désolé, je donne un verre d'eau, il y a du poison dedans, tu bois l'eau, tu laisses le poison. Hein. Est-ce qu'Anthony va me répondre ? Non mais Tim, tu plaisantes j'espère. Comment tu veux que je bois que l'eau et que je laisse le poison ? C'est complètement mêlé à l'eau, je peux pas me dissocier les deux. Ouais d'accord. Eh bien c'est pareil avec le mal, finalement. Si on fait des choses mauvaises, comment un Dieu parfaitement saint, il pourra accepter le package de quelqu'un qui a fait des choses bonnes, quelqu'un qui a fait des choses mauvaises. S'il y a ne serait-ce qu'un tout petit peu de mal, comment il peut l'accepter ? Anthony ne peut pas accepter un verre où il y a du poison dedans. Il faut un verre avec que de l'eau, il faut un verre où il n'y a absolument pas de poison. Eh bien, c'est pareil pour Dieu, il est parfaitement saint, c'est-à-dire séparé du mal. Il ne peut pas accepter le mal qu'on fait. Il ne peut accepter aucune de nos erreurs.
C'est pour ça qu'on va au purgatoire.
Très bonne remarque. Très bonne remarque. Et là, ce qu'on peut leur répondre, c'est... Ah donc, c'est-à-dire que Jésus n'a pas tout payé à la croix. Et pour repartir encore sur le sacrifice de Jésus à la croix. Donc voilà, plein de questions qu'on peut poser. Vraiment, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions qu'on peut poser. Ma liste n'est pas du tout exhaustive. J'ai un peu speedé, hein, parce qu'au niveau timing, depuis tout à l'heure, je suis un tout petit peu à l'arrache. Mais je vous ai laissé quelques dogmes, laissé quelques questions, laissé quelques petites choses, notamment la route romaine. Il n'y a pas que la route romaine, hein. Ouh là là, j'ai trois pieds sur le prochain. Il n'y a pas que la route romaine, hein. Il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez, les sept paroles d'espérance avec sept passages en livre de Jean. Il y a plein de petits.
Les sept je
suis de Jésus. Il y a plein de petits process, entre guillemets, comme ça, qui nous permettent d'avoir des études simples avec les gens. Mais en gros, le fait de se poser, de lire un peu un passage de la Bible autour d'un café, franchement, Starbucks, les gens. Qui dit non à un Starbucks ?
C'est cher.
Voilà, un café, on n'est pas fermé sur la question, mais si tu invites quelqu'un au Starbucks...
Ou bubble tea.
D'où il vient ? Ou bubble... Ah ! T'as raison. Mais si demain, Tatiana me dit, frère, viens, on se fait un Starbucks, j'oserais jamais dire non à un Starbucks. Bon, Tatiana aussi, mais jamais je dirais non à un Starbucks.
Sur une table, déjà.
Ce que je veux dire, c'est que des choses simples comme ça, de viens, on se pose, on prend un peu de temps, et on va juste prendre un passage, pas forcément faire une étude vraiment littéraire, compliquée, etc. Juste lire quelques versets, échanger sur ces sujets-là. En prenant ce temps-là, eh bien, quelque chose se créera. Mais c'est sur le très long terme, éventuellement. Encourager à lire, méditer et étudier la parole. C'est la parole qui sauve et non ce que nous on fait. Ne croyez pas que tout repose sur vos épaules ou sur d'autres parties de votre corps, si vous êtes très très fort des jambes, je ne sais pas, aucun porte, mais rien ne repose sur nous. Nous ne sauvons personne. Dieu seul sauve. Et nous sommes que ces intermédiaires qu'il peut utiliser dans sa grâce pour permettre d'annoncer l'évangile à d'autres. Ok ? Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que on n'est pas forcément toujours très doué, mais on peut les encourager à « Tiens, viens, ce que je te propose, c'est que tu lises tel passage et puis on en reparle la prochaine fois qu'on se voit. Qu'est-ce que t'en penses, toi en tant que catholique, moi avec ce que je crois, etc. » Et ne pas hésiter à se poser et échanger autour de textes bibliques. Ok ? Donc voilà plein de petits outils assez concrets. Je vous dis pas ça seulement en mode théorie, moi j'ai testé. Alors, je dirais pas qu'il y a une façon magique. D'accord ? C'est comme une recette où tu mets ta farine, tu mets tes œufs, même si t'es pas très doué en pâtisserie comme moi, bien finalement ça sort et c'est bon. C'est pas l'idée. L'idée c'est qu'à travers la prière, à travers le temps passé dans la prière, à travers le temps passé avec ces personnes, on va leur consacrer du temps. Et la lecture de quelques passages, notamment la route romaine, etc., eh bien, Dieu peut changer les cœurs. Ça n'arrivera pas forcément à tous les coups, des fois on sera déçu. Moi, j'ai des amis cathos que je connais depuis des années, et des années, on a fait plein de trucs ensemble. Finalement, ça n'a pas toujours eu son impact. Vous voyez ? Mais je crois et j'ai la certitude que Dieu peut transformer les cœurs, et il faut persévérer. Et on a cette chance dans notre monde aujourd'hui de parfois avoir plein de catholiques autour de nous qui sont parfois très très ouverts à la lecture de la Bible, de se prendre un peu de temps et lire un truc. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des mouvements assez modernes de catholiques dits charismatiques qui sont assez ouverts sur la parole, sur lire la parole, sur avoir parfois des messes un peu différentes, etc. Un peu plus modernes, vous voyez. Et qui sont très 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 ouverts sur l'échange autour de la Bible. Et donc vraiment, on peut avoir cette idée qu'on peut se poser avec eux et échanger. Alors, attention aussi à... Et je pense que je vais terminer avec ça, après on aura éventuellement une question. Merci. C'est bien que tu me rappelles le temps. Il me connaît, il sait que j'ai du mal avec le timing. C'est bien, il a raison. Mon frère connaît mes faiblesses. Attention à l'intellectualisme. Moi, je pensais parfois que les personnes étaient interpellées par la parole, mais parfois les personnes sont plus interpellées par leur intellect que par le texte. C'est-à-dire que, ah ouais, mais en fait, c'est vachement intéressant. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont changé quelque chose. J'ai un ami de l'église de Montreuil encore qui a une phrase que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est de lui, mais je lui pique tout le temps. On a, oh, Alain, échappe. On a un problème de 20 cm, la différence entre la tête et le cœur. La différence distance entre
c'est
la,
pas
la,
de lui, y a pas
la distance, c'est pas de lui, tout le monde le dit, mais je sais pas. Moi je veux dire que c'est lui. La distance entre là et là. Alors 20, 30, 40 cm, peu importe, hein, ça dépend de votre taille. Mais vraiment cette idée que on peut comprendre des choses ici, intellectuellement, c'est pas pour autant que ça va changer ici, dans le cœur. Ok ? Et donc, attention, parfois on a l'impression que la personne en face de nous est interpellée, mais ça peut être que de l'intellect et pas forcément une réelle croyance. Et ce qui va changer, c'est l'application des vérités bibliques dans la vie quotidienne. Moi, ce qui fait que je suis chrétien, c'est pas que je dise que je vais le dimanche à l'église, etc. C'est le fait de vivre des choses simples au quotidien, la parole de Dieu. On est d'accord ? Et c'est ça qui est le plus dur. Hein. Parce que passer pour un bon chrétien, c'est facile. Celui d'aller le dimanche et d'être sage. Mais appliquer les vérités bibliques dans la vie quotidienne, c'est ça la grosse difficulté.
C'est notre défi.
C'est notre défi à tous. Et c'est ça qui va changer, les faire réfléchir ces choses-là. Alors je vais résumer, puis après on va éventuellement avoir un temps d'échange. Si je vais résumer, on a fait en gros deux parties. Une partie un peu théorique entre guillemets, on a revenu sur plein de petits dogmes. Et la conclusion de cette partie-là, c'est que en fait, c'est pas si caricatural que ça la pensée de nos amis catholiques. C'est pas tout noir, c'est qu'un salut par les œuvres de A à Z. Non, non, ils vont te dire oui, on est sauvé par la foi en Christ. C'est pas tout blanc non plus, parce qu'en fait leur salut est mêlé d'humains. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils ont besoin d'agir pour se sauver. Est-ce que Jésus a fait à la croix n'est pas total, n'est pas suffisant. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête quand on échange avec eux. Ensuite, dans un deuxième temps, j'ai proposé quelques outils, notamment la route romaine. Et je peux même vous filer les fichiers que moi j'utilisais. Hein. Je les ai, les 8. C'est pour ça que j'ai laissé mon mail aussi. Le PowerPoint, je peux vous le laisser avec toutes les références. Le site, je l'avais mis au tout début, le site où j'ai utilisé pour les références. Je vous l'avais indiqué, je peux vous le laisser. Et également, tout le matériel que j'ai utilisé pour la route romaine, Romains 1 à 8. Comment échanger avec nos amis catholiques avec le livre de Romains. Ça, je peux vous le laisser, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas que ce que j'ai est très bien comme matériel, mais ça peut permettre de base si jamais vous voulez l'utiliser. Et voilà, je vous propose que dans un troisième et dernier temps, dans le magnifique temps de 2 minutes qui nous reste, on puisse éventuellement échanger. Je suis désolé, quand j'ai fait ce type PowerPoint, je ne connaissais pas vos besoins. Je vous aurais connu avant, vous m'aurez dit, ah ben moi, voilà, je pense à ça, etc. On aurait pu faire les choses autrement, mais je ne vous connaissais pas. Mais je ne connaissais pas qui allait venir et je ne connaissais pas vos besoins. Donc est-ce que vraiment certaines personnes vont revenir sur certains points en disant voilà, moi j'ai remarqué, j'ai vécu ça, moi j'ai vécu ceci.
Déjà, est-ce que vous côtoyez des amis catholiques ou des collègues catholiques
ou la famille, ouais.
La famille.
Mais il y a sa famille.
Personnellement, j'étais catholique avant.
Oui, je sais, je m'en souviens, quand on s'est vu, tu t'es présenté en disant bonjour, je suis catholique. Et je me suis dit.
Mais elle est universelle, quoi. Et vous, ce que je voulais dire.
Les autres, vous avez écouté un peu.
Non, je pense pas, c'est moi qui l'ai dit ça.
Je te promets, t'es venu me voir, tu vas dire bonjour, je suis catho.
Il y a
4 ou 5 ans.
J'étais pas encore catho, hein. Non, justement, quand j'étais déjà. Quand la première fois, je suis une nouvelle église, j'étais déjà plus catholique, hein.
Écoute, je sais pas si je dis des bêtises ou pas, mais moi je me souviens de toi la première fois que je t'ai rencontré, de te présenter en tant que catholique.
Ah,
j'ai mal compris.
Ah,
c'était au tout début de ton film.
Si c'était une simulation, oui, j'ai dit que.
Ah. Bon, peut-être que c'est pas vrai.
Allez, c'est pas grave, c'est.
Des fois j'ai du mal, je suis prof de maths, hein, je suis pas très intelligent, c'est pas grave.
Qu'est-ce que tu racontes ?
J'ai compté jusqu'à 10 et ça suffit.
Mais sinon, les autres, ouais. Vous voudriez un peu des.
Moi, oui, du coup, bah, déjà, la culture de base des gens est catholique. Donc, là, je pensais notamment à une collègue à moi qui se considère plutôt comme athée maintenant, mais qui a été dans une école catholique quand elle était petite. Et qui, par exemple, elle, on a parlé justement du fait de prier les saints. Et donc, elle reste beaucoup imprégnée de ces hommes-là. Et aussi, j'ai une amie aussi qui vient d'un milieu catholique et du coup, qui m'a posé beaucoup de questions sur ça. Parce qu'elle recherche Dieu, donc du coup. Donc après, une fois aussi, ça m'est arrivé pendant l'étude publique, je savais pas qu'il y avait une personne catholique dans le groupe. Et j'ai dit quelque chose sur justement le Seigneur par la foi qui me paraissait totalement. Enfin, c'est un truc. J'ai vu bondir, mais un truc de fou. Et c'est là que j'ai vu à quel point pour eux ça peut être épidermique de la question du salut. Enfin, à quel point ils trouvaient que c'est de l'orgueil complet, enfin un orgueil.
D'être sûr de son salut.
Ouais, d'être sûr de son salut, que c'était vraiment orgueilleux, que c'était pas possible, quoi. Du coup, c'est pour ça que c'est intéressant pour moi de connaître un peu mieux. Voilà, ce qui peut faire des ponts et ce qui peut faire des. Et puis après, des fois, se positionner aussi quand on est avec des catholiques, par exemple. Quand on va à des mariages catholiques ou des témoins dans des mariages catholiques par exemple, des fois c'est difficile de se dire je veux pas compromettre ce que je crois, mais en même temps c'est une amie et je pense que voilà, il faut quand même que je le fasse. Donc,
C'est dur de pas rentrer dans ce conflit protestant-catho. Moi, je me présente pas trop comme protestant. Enfin, si, pour mettre une étiquette. Ah, on va dire que je suis protestant. Mais voilà, je leur dis, écoute, très simplement, je dis pas que je suis Martin Luther ou machin, etc. Mais très simplement, ou Calvin, etc. Je leur dis très simplement, voilà, moi, ma référence, c'est la parole de Dieu. Je suis dans une église qui se dit évangélique. Bon, voilà, pour faire simple. Mais c'est vrai que très rapidement, on arrive dans ce maintenir, toi, t'es protestant, moi, je suis catholique, c'est normal qu'il y ait des différences. C'est ces petites habitudes, ces petites routines. Il y a d'autres personnes qui veulent échanger un peu là-dessus ?
Mais dans le que ce soit catholique ou peu importe l'arrière-plan de la personne, c'est le discernement. Le discernement, est-ce que la personne te pose la question pour te tester ou pour apprendre à te connaître ? Et aussi, ce qui crée vraiment un point, c'est de proposer à la personne qui est catho ou musulmane de prier directement pour elle. Parce que la personne va être touchée, va comprendre que prier ou avoir une relation avec Dieu, c'est pas juste. Mystique ou réservé que aux prêtres ou que telle personne, mais c'est vrai que ça touche en fait de dire bah ok, toi t'es catholique, moi je suis protestant, toi t'es musulman, toi t'es bouddhiste, toi tu cherches le salut dans le yoga. Après, pour moi c'est démoniaque. mais ouais, est-ce que t'as un sujet de prière que je préfère pour toi et que tu prends 2 minutes à prier pour la personne et la personne va voir que tu t'intéresses à sa vie, t'es pas juste là pour la convertir et c'est un pont aussi parce qu'avoir que je t'intéresse à elle et peut-être qu'elle va te confier d'autres choses et c'est comme ça que tu vas témoigner en fait. Et des fois peut-être on n'ose pas prier directement pour la personne. Et en fait c'est vrai que ça peut paraître bête, mais si on le fait tout seul avec Dieu, pourquoi on ne ferait pas avec une personne qu'on voit tous les jours au travail ou... Ouais.
C'est une bonne remarque, ça. C'est vraiment une bonne remarque. C'est vrai qu'on a aussi beaucoup de personnes qui se disent catholiques, qui ne sont pas forcément tout le temps. Moi j'ai un collègue comme ça, avec qui j'échange beaucoup, qui se présente comme catholique, mais qui a une vie complètement dissolue. Donc c'est voilà.
Il y a aussi des choses qui se passent aussi chez les cathos. Hein. Des fois, il y en a qui s'est fait en direct dans l'église. J'ai déjà eu témoignages comme quoi des personnes ne marchaient pas. Quelqu'un en fait, il passait avec la scène de croix en vrai là. Et à ce moment-là, il y a des gens qui se levaient à marcher, à suivre le prêtre aussi. Il y a des choses comme ça qui s'est passé. Je ne dis pas que les cathos, il y a des choses, peut-être des manières de faire et différents, et pas bonnes, mais il y a des choses quand même qui se passent.
Oui, c'est ça. Il y a la parole de Dieu.
Oui, c'est ça.
Il peut y avoir des convertis. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, je pense que tout chrétien mature est appelé à sortir de l'Église catholique pour les raisons qu'on a évoquées sur notamment le salut, etc. Et tout ce salut mêlé d'humains où ce que Jésus a accompli à la croix n'est pas parfait, n'est pas total. Donc, et si elle est catholique convertie, je pense que oui, ça me semble assez évident. On a Eric dans l'entreguise avec qui j'ai échangé sur le sujet, qui parlait de ses parents, enfin bref.
Et puis il y a la femme de Victor Valencé, elle est convertie.
Exactement. Non.
Les catholiques, en fait, tout ça, c'est juste des religions qui ont fait un peu les tris ou des manières de faire. Mais toute base, c'est vraiment la parole, quoi.
Et ça, c'est très bien résumé. Je pense que ça, c'est très bien résumé parce que il faut pas non plus qu'on se dise, moi je suis protestant, j'ai raison. Ouais, ce qui nous donne raison, c'est la parole de Dieu.
Et là, ça, je veux en venir.
Ouais. Exactement.
Et puis tu vois les fruits dans la vie de la personne en face de toi. Si la personne, elle est en mode tellement mari, et qu'elle a plus foi dans sa relation avec Marie qu'avec Jésus, tu vois. Donc, ça fait mal au cœur, tu vois. Tu dis, bon bah. Je vais prier pour elle, je vais lui parler de Dieu, je vais témoigner par. Je lui parlais de la Bible et puis l'encourager à lire la Bible parce qu'il dit la Bible aussi. Et après, bah, c'est là où ça te monte limite humaine où t'as pas le contrôle et c'est Dieu qui fait croître la semence. Et ça t'humilie en fait. Je fais ce que je peux avec ce que Dieu m'a donné. Et qu'on pense à Dieu pour le reste.
Vas-y, vas-y.
Parce que si, il faut partir sur une base où en fait il n'y a pas de religion. Je pense que si on passera tous sur la Bible, là, je pense qu'il y aura vraiment pas assez autant de différences entre le catholique, orthodoxe, tout ça.
Ce qui est important n'est pas de se définir en tant que religion, moi je suis catholique, moi je suis machin, ce qui est important c'est de se définir en tant qu'enfant de Dieu qui croit en la parole de Dieu. Et ce que nous on veut, c'est que des personnes qui finalement croient certaines choses mais n'ont peut-être pas forcément une vie régénérée, qu'on appelle catholique, pouvoir vraiment leur présenter clairement ce qu'est l'évangile en Jésus-Christ. Alors déjà je vous remercie parce que ce fut très agréable de passer ce temps en votre présence. Surtout toi qui étais très actif, un peu plus vers la fin. Vraiment, c'était assez agréable. Vraiment, n'hésitez pas, envoyez-moi comme on dit de manière correcte, un courriel. Envoyez-moi un mail, n'hésitez absolument pas, pour que, vous pouvez me le faire maintenant si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème, pour que, si vous voulez le PowerPoint, je vous l'envoie. Et si vous voulez éventuellement mes supports pour la route romaine, vous savez, c'est une fin à parler, je vous les envoie. Ok ? C'est adapté en fonction de la situation, mais ça peut vous faire une petite base. Donc n'hésitez pas. Passez à revenir, j'appelle Timothée Coulmy, Tim Coulmy, donc T-Coulmy. @gmail.com, comme un peu tout le monde, parce que je suis un computer. Exactement. Peut-être laisser le mot de la fin à quelqu'un qui n'a pas trop parlé. Ce quelqu'un qui n'a pas beaucoup parlé voudrait prier pour terminer. Si jamais vous avez envie.
Désolé, moi.
Je comprends, il n'y a pas de problème, il se fait tard. Allez, bonsoir.
Salut.
Si quelqu'un veut prier, juste pour clôturer.
Émilie.
Vous forcez pas, il n'y a pas de problème. Non. Je sais pas, est-ce que Sam, tu veux prier? Non. On va pas te forcer.
Bon.
Tatiana, t'as envie, toi, je sens. Ok, c'est génial. Merci beaucoup d'être là.
Seigneur, merci parce que ta parole dit que ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, mais un esprit de force et de courage. Quand on prie, Seigneur, il n'y a pas de meilleure prière, meilleur chrétien, meilleur langage. Mais c'est juste nos cœurs devant toi et ouais, on veut bénir chacun, qu'il puisse repartir avec un cœur encouragé, un désir d'être un témoin, que tu équipes chacun par ta parole, par ton Saint-Esprit, par les relations fraternelles à aimer plus Dieu, aimer plus son prochain. Ouais, que tu bénisses chaque personne qui est venue aujourd'hui, que tu puisses les accompagner dans leur semaine, dans leur culte de demain, que tu puisses vivre au quotidien, pas juste le dimanche l'évangile. Et que tu puisses donner un soutien aussi à ceux qui dans ce groupe traversent des épreuves, qu'ils puissent trouver une oreille attentive, quelqu'un qui puisse porter le fardeau, parce que tu dis la parole de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Et en tant qu'église, avec un grand E, on veut porter les fardeaux les uns des autres, que ce soit de notre alliance d'église ou pas de notre alliance d'église. Amen.